Merci à tous d'être avec nous. 11h30 en temps universel, il est 14h30 à Kiev. Nous allons parler d'Europe durant la prochaine demi-heure, puis nous vous retrouverons, Margot Ratézic, pour le journal. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Jérusalem après ces explosions entendues ce vendredi matin dans le centre de l'Iran. Des responsables américains parlent de représailles israéliennes après l'attaque massive de Téhéran contre l'État hébreu le week-end dernier. Mais les Iraniens, eux, nient toute attaque étrangère. Du côté de la communauté internationale, les réactions appelant à la désescalade continuent de tomber. Et puis pas de surprise, hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont opposé leur veto à la demande palestinienne de devenir un État membre à part entière des Nations Unies. Nous reviendrons sur le soutien de la communauté internationale aux Palestiniens avec notre journaliste en studio. Et l'actualité internationale, c'est aussi cet avion bombardier stratégique russe que l'Ukraine dit avoir abattu. Si l'information est confirmée, ce serait une première dans le conflit russo-ukrainien. Vous entendrez l'analyse d'un expert en géopolitique. Et puis la crise sociale et politique en Haïti. Nous nous intéresserons à la fuite des cerveaux, ces fonctionnaires, commerçants ou chefs d'entreprise qui fuient par milliers vers l'étranger à cause de la violence dans le pays. Reportage de nos envoyés spéciaux à suivre. En Inde, ces jours de vote, près de 970 millions d'Indiens appelés aux urnes à partir de ce vendredi pour un méga scrutin législatif de 6 semaines. Notre envoyé spécial dans l'Uttar Pradesh a interrogé des électeurs à la sortie d'un bureau de vote. Nous irons en Chine où WhatsApp, Threads, Signal et Telegram ont été retirés de l'Apple Store. Et enfin, on parlera musique avec cette sortie, celle du 11e album de Taylor Swift, la méga star américaine de tous les records, un carton d'ores et déjà annoncé pour ce nouvel opus.
Merci Margot, on vous retrouve dans une demi-heure pour le journal.
RFI, l'Europe à midi.
Et d'ici la direction l'Ukraine, une fois encore ce matin, les sirènes, les camions de pompiers dans l'est du pays, les mêmes images d'immeubles dévastés, noircis, aux vitres soufflées et des habitants sonnés qui regardent la scène. Ce matin, c'est à Dnipropetrovsk que les Russes ont frappé et nous sommes en direct pour en parler avec notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, la Russie a intensifié ses frappes aériennes contre l'Ukraine ces derniers jours et encore une fois aujourd'hui, le bilan humain et matériel est lourd.
Oui, tout à fait, Anne. Ces sirènes, ces cris que l'on entend, eh bien, ils sont très familiers ici, tristement familiers, puisque ces attaques, elles se multiplient. On a un bilan très lourd, au moins 8 morts, plus d'une trentaine de blessés. Parmi les morts, 2 enfants dans ces frappes. Elles ont affecté plusieurs sites. Vous l'avez mentionné, la région de Dnipropetrovsk. Donc, la ville de Dnipro même a été touchée, notamment des bâtiments résidentiels. Un immeuble de 5 étages a pris feu. Des infrastructures ferroviaires ont été touchées. En dehors de la ville, il y a aussi un district de Sinelnikove qui a été touché où 6 personnes sont mortes, 10 maisons. Y ont été touchés. Il y a eu des dégâts également sur les infrastructures à Pavlograd, c'est dans cette même région. Il n'y a pas eu que celle-ci d'affectée, c'était une attaque d'ampleur avec des drones également. L'ouest du pays a été visé, ainsi qu'Odessa. Donc ces frappes, elles continuent, elles s'intensifient à un moment où la défense antiaérienne ukrainienne peine à suivre.
Et alors que ces frappes étaient en cours, Emmanuel, on a appris qu'un bombardier russe s'était écrasé dans le sud-ouest de la Russie. L'Ukraine revendique une frappe. Quelle est son importance pour Kiev ?
Alors, elle est significative. Le commandant de l'armée de l'air, Nicolas Oleschuk, a annoncé que c'était bien l'Ukraine qui était à l'origine de ce crash. Ça serait la première fois que des unités de défense antiaérienne ukrainienne parviennent à abattre un bombardier stratégique à longue portée de ceux qui, justement, lancent ces missiles de croisière qui viennent s'abattre sur l'Ukraine de façon quasi quotidienne. Donc, pour Moscou, on parle d'incident technique pour cet avion qui s'est écrasé dans le sud-ouest du pays. En tout cas, pour les Ukrainiens, c'est un avion de moins qui lancera ce missile sur le territoire ukrainien et donc un maigre soulagement alors que l'Ukraine continue d'avertir ses alliés qu'elle manque cruellement de moyens pour assurer sa défense aérienne.
Emmanuel Chaz, en direct de Kiev, vous nous le disiez, l'Ukraine répète qu'elle a besoin de plus de moyens, plus de matériel pour lutter contre l'offensive russe. Le sort du pays a été évoqué au sommet du G7 qui se tient en ce moment en Italie. Lors des discussions hier, les États-Unis ont tenté par exemple de convaincre les Européens de faire davantage pression sur la Chine qui apporte, selon Washington, un soutien croissant à la Russie. Et le ministre ukrainien des Affaires étrangères a lancé un appel au G7. Écoutez.
L'avenir de l'Europe se joue en Ukraine, l'avenir du Moyen-Orient se joue en Israël et l'avenir de l'ordre mondial se joue dans ces deux endroits. L'Occident a la capacité d'être efficace dans toutes les crises et cela doit être clair. Il a la capacité militaire et la capacité financière, mais il doit fournir à l'Ukraine toutes les ressources nécessaires dès que possible pour sauver l'Europe d'une guerre plus importante. C'était le sujet principal de mes conversations. Et nous avons identifié les mesures spécifiques que les partenaires occidentaux prendront pour aider l'Ukraine dans ces circonstances. Je pense que l'idée selon laquelle l'Occident doit choisir entre soutenir Israël ou l'Ukraine est erronée, car il s'agit de deux théâtres d'une même guerre.
Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, le G7, a évoqué justement ce matin le conflit au Proche-Orient, appelé à la retenue après des frappes israéliennes en Iran, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Russie, mais aussi la Chine ou les États-Unis. Partout dans le monde, on invite les autorités israéliennes et iraniennes à éviter l'escalade. Écoutez Antonio Tajani, ministre italien des Affaires étrangères, qui préside le G7 en ce moment à Capri.
Io ho voluto subito che ci fosse un messaggio chiaro. Da parte di tutto il G7, l'obiettivo politico del G7 si chiama.
Je voulais que l'ensemble du G7 envoie un message très clair. Voilà ce que dit le ministre italien des Affaires étrangères. L'objectif politique du G7 est la désescalade. Nous invitons tous les partis à travailler pour éviter donc une escalade. Les propos du ministre italien des Affaires étrangères. Le G7 se poursuit aujourd'hui et il sera évidemment question de la situation au Proche-Orient. Quant au soutien à Israël, eh bien, il divise les Européens. La moitié des Français soutient l'interdiction du commerce des armes avec Israël. Et un adulte sur trois en France pense qu'il est vrai de dire qu'Israël commet un génocide à Gaza. Voilà ce que dit un sondage YouGov commandé par l'Institut palestinien pour la diplomatie publique. Il montre l'écart entre l'opinion publique et les mesures prises par les gouvernements européens en ce qui concerne la guerre à Gaza dans 5 pays différents. L'étude a été menée sur une population en âge de voter. Explication, Alice Froussard.
L'un des principaux enseignements de ce sondage, c'est que l'opinion publique française, dans son ensemble, reconnaît qu'il est vrai qu'Israël commet un génocide à Gaza. L'autre enseignement, c'est que la jeunesse, entre 18 et 24 ans, est la mieux informée, celle qui soutient le plus les droits des Palestiniens, explique Inès Abdelrazek, directrice de l'Institut palestinien pour la diplomatie publique.
C'est des jeunes qui, en effet, ont beaucoup plus accès à ce qui se passe en réalité sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Et donc, ils voient l'horreur de ce qui se passe. Je veux dire, c'est quand même assez difficile de fermer les yeux. Car le sondage montre aussi que les jeunes voient vraiment le lien entre la cause palestinienne et les questions de liberté, des questions de justice. Et voient aussi qu'on peut qualifier la politique israélienne d'apartheid et de colonialisme plus que les générations plus âgées.
Un signe positif en vue d'un changement de cap politique dans le futur lorsque cette génération arrivera au pouvoir, continue Inès Abdelrazek. Surtout quand les gouvernements actuels précisent que les manifestations ne représentent qu'une toute petite minorité de population.
On a bien vu des dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées dans les rues, qui sont sorties manifester. Malheureusement, ce que montrent les données, c'est que le gouvernement n'est clairement pas en phase avec ce que veut l'opinion publique et les électeurs. On veut que le sondage puisse être un outil pour tous ceux qui se mobilisent déjà en solidarité avec la Palestine. Le sondage montre qu'ils ont le soutien d'une très forte proportion de la population.
Avec un enjeu clé, celui de l'information, plus la population est informée, plus elle soutient à la fois des sanctions contre Israël et le respect des droits des Palestiniens. Alice Froussard, Ramallah, RFI.
À Ramallah, il est 13h39, comme ici, à Paris.
RFI Midi.
Comme chaque vendredi, notre coup de fil à un journaliste européen. Nous sommes en ligne aujourd'hui avec Birgit Holzer, correspondante du journal allemand Tagesspiegel à Paris. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. On a parlé hier sur notre antenne avec notre correspondant à Berlin de ces deux espions russes arrêtés alors qu'ils prévoyaient de saboter des sites militaires américains en Allemagne. Quelles sont les réactions ce matin dans le pays ?
On est quand même choqué. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une surprise quand on a suivi d'autres cas d'espionnage qu'il y a eu ces derniers temps, notamment ces deux dernières années. Mais on voit l'envergure de ce qui est reproché à ces deux hommes, c'est-à-dire non seulement d'avoir espionné, d'avoir cherché, d'avoir travaillé avec le renseignement russe, d'avoir cherché des informations, d'avoir fait des vidéos, d'avoir fait des photos, mais aussi d'avoir planifié des actes de sabotage. Heureusement qu'ils ont pu être arrêtés, mais évidemment la question se pose combien d'autres cas il y en a, et on voit en fait toute la lumière sur ces essais russes et en utilisant un spectre assez large de faire des actes de sabotage on voit aussi les essais d'ingérence russe dans notre pays, donc il y a une réaction très forte et assez alarmée, justement parce qu'on craint que ce qu'on voit c'est juste la pointe de l'iceberg.
Et cette influence russe, on l'observe aussi dans des liens avec certains partis politiques, en particulier à l'extrême droite.
Absolument. Donc, il y a depuis quelques jours, en fait, la justice belge enquête sur des soupçons d'ingérence russe, sur les soupçons que la Russie a payé certains eurodéputés, dont notamment deux Allemands, numéro 1 et numéro 2 de la liste de l'AFD, donc l'extrême droite allemande. Il y a des soupçons très concrets. Le numéro 1 a été arrêté aussi aux États-Unis. Il a été questionné par le FBI parce qu'il avait avec lui une grosse somme d'argent. Et apparemment, parce qu'on a vu des messages dans un portable d'un homme d'affaires russe, apparemment il y a des liens. Rien n'est encore prouvé à ce stade, mais on voit qu'il y a de toute façon ces soupçons qui pèsent lourd, non seulement sur des personnages de l'extrême droite, mais ici, il y a aussi un nouveau parti venant plutôt de l'extrême gauche, Sarah Wagenknecht, qui est une femme politique de la Die Linke, qui a quitté le parti pour créer un nouveau parti qui est vraiment une sorte de porte-parole de la propagande russe en Allemagne et qui, elle aussi, a des liens toujours avec Moscou.
Et ça n'est pas la première fois qu'on observe certains liens avec des politiques. Il y avait notamment eu, il y a quelques années, l'ex-chancelier Gerhard Schröder forcé à renoncer à un poste chez Gazprom parce que sa nomination avait provoqué vraiment un tollé en Allemagne. Déjà, il y avait quand même des liens. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces relations entre Moscou et des responsables politiques en Allemagne ?
On a une idée parce que ces relations persistent en partie. Donc justement, Gerhard Schröder, il tient toujours à son amitié avec Vladimir Poutine. Il a critiqué la guerre, il a dit plus ou moins que c'était une bêtise, mais il n'a pas rompu. On voit aussi que pendant qu'il a été chancelier, il a pris des décisions importantes aussi, justement des décisions économiques importantes, mais aussi celles qui allaient suivre Gerhard Schröder, Angela Merkel.
Birgit Holzer, pardon, la ligne s'est dégradée, on vous a un petit peu perdu. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondante du journal allemand Tagesspiegel à Paris. Merci beaucoup.
Anne Kantner.
Ces arrestations des deux espions russes font la une de tous les journaux aujourd'hui en Allemagne. Le Süddeutsche Zeitung rappelle que des centaines de drones ont été aperçus au-dessus des casernes allemandes l'année dernière et jamais ou presque les personnes qui les pilotent n'ont été arrêtées. Die Welt nous apprend que dans ce contexte, les députés du Parti social-démocrate demandent la création d'un nouveau fonds spécial. Un fonds qui ne devrait pas seulement être utilisé pour la sécurité extérieure, mais aussi pour la sécurité intérieure et notamment pour la police. Le même journal, Die Welt, nous apprend qu'un homme a été arrêté en Pologne, un Polonais qui aurait recueilli des informations sur les mesures de sécurité dans un aéroport pour les transmettre à la Russie. Le quotidien polonais Wyborcza donne des précisions. L'homme devait aider les services spéciaux russes à planifier une éventuelle tentative d'assassinat de Volodymyr Zelensky. Le journal assure, ajoute, que le procureur a reçu des preuves à ce sujet de la part de l'Ukraine. On va revenir à présent sur une loi qui a fait beaucoup débat en Europe, le pacte asile et migration adopté la semaine dernière à Bruxelles. La Pologne continue de s'y opposer. Ce pacte propose notamment de répartir les réfugiés entre les pays membres de l'Union européenne. Mais Varsovie dit ne pas être en capacité d'accepter de nouveaux réfugiés, notamment depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Reportage, Martin Chabal.
Le Premier ministre Donald Tusk ne veut pas du pacte migratoire européen. Lui, pourtant élu en décembre dernier sous l'étiquette du pro-européen ancien président du Conseil européen, qui fera tout pour réchauffer les relations avec Bruxelles. Le pacte migratoire ne passe pas.
Je sais que je vais me fâcher avec certains pays européens. Je suis contre le pacte migratoire européen et je ne reviendrai pas sur ma décision. Je vais accueillir ici, à Varsovie, de nombreux chefs de gouvernement, mais ils ne me feront pas changer l'avis. Même s'ils ne sont pas contents, ils comprennent sûrement ma position.
C'est que l'invasion russe chez son voisin ukrainien a changé la donne dans son pays. La Pologne a ouvert grand les bras pour accueillir les réfugiés ukrainiens, si bien que selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Pologne accueille près d'un million d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que le nouveau gouvernement polonais s'oppose à ce pacte migratoire. Andrzej Aliski est l'un des députés qui représente le parti du Premier ministre au Parlement européen.
Nous avons voté au Parlement européen systématiquement contre les dispositions actuelles du pacte migratoire. Nous continuons à travailler pour garantir la sécurité de la Pologne et nous pensons que la frontière extérieure doit être renforcée et il faut augmenter le fonds de solidarité. Le but pour nous, c'est d'exclure la Pologne des mécanismes de solidarité prévus par le pacte, car nous faisons face quotidiennement à de grandes vagues migratoires, comme c'est le cas en Pologne après l'invasion de la Russie et de l'Ukraine.
Une position qui peut surprendre de la part du parti pro-européen comme celui de Donald Tusk, tant ce pacte fait l'unanimité au sein du Parlement. Surtout que ses positions sur ce sujet nous rappellent étrangement celles de ses prédécesseurs. Les eurosceptiques de droit et justice, pendant 8 ans, ils ont bloqué presque tous les votes au Parlement en utilisant leur veto. Le président Andrzej Duda, allié de droit et justice, s'opposait déjà au pacte migratoire il y a 6 mois.
Nous nous y sommes fermement opposés. Et nous nous sommes battus pour que ce système de quotas n'existe pas, car il s'agit d'un système injuste, d'un système qui traite des conséquences et non pas du problème en réalité.
Toute la classe politique polonaise s'oppose donc fermement à ce pacte migratoire européen. Une position plutôt partagée par les électeurs, bien que ce sujet n'ait pas fait la une des journaux et n'ait pas vraiment un thème de campagne pour les prochaines élections européennes. Le problème est en fait assez simple pour eux. Sophie a le sentiment que la Pologne ne peut pas se permettre d'accueillir de nouveaux réfugiés.
Pour ce qui est du pacte migratoire, je comprends assez bien le problème. Surtout que depuis le début de la guerre en Ukraine, on a beaucoup de réfugiés ukrainiens. Alors oui, nous sommes un pays ouvert maintenant, mais je crois que nous ne sommes pas en mesure de faire face économiquement à de nouvelles arrivées. Il faudrait plutôt de nouvelles règles pour pouvoir entrer sur le territoire européen.
Ce qui ne passe pas, c'est l'amende que risque la Pologne si elle ne collabore pas avec l'Union européenne. 20 000 euros par demandeur d'asile refusé. Et si aujourd'hui on ne sait pas encore combien seront répartis exactement entre les pays membres et combien la Pologne devrait en recevoir, certains économistes ont tenté de se pencher sur la question. Selon leurs calculs, prenant en compte les critères du pacte migratoire, la Pologne devrait accueillir environ 2 000 réfugiés par an. Et si la Pologne décide de tous les refuser, comme Donald Tusk l'a annoncé, elle devra payer environ 40 millions d'euros d'amende par an. Pour Stanisław, c'est important que Donald Tusk fasse entendre sa voix face à cette punition qu'il trouve injuste.
Je ne sais pas si je suis d'accord à 100% avec Donald Tusk, mais pour être honnête, 20 000 euros par réfugié, je ne veux même pas penser à la somme totale de l'amende. Mais je pense que c'est important de rappeler le poids que nous avons déjà avec cette guerre en Ukraine. Je pense que ça vaudrait la peine d'en tenir compte lorsqu'on parle de la Pologne et des réfugiés.
Donald Tusk a un plan et espère que les choses vont changer. Selon lui, le Parlement européen s'est empressé de faire voter le pacte migratoire 2 mois avant les élections européennes, dans un but purement électoral. La pression migratoire dans les pays comme la France ou l'Italie favorise la montée des partis anti-européens et anti-immigration. Pour Donald Tusk, voter pour le pacte, c'est montrer que l'UE se soucie des problématiques migratoires. Mais après les élections, le Premier ministre polonais espère rappeler la position de son pays sur le pacte migratoire et faire changer les règles assez rapidement. Martin Chabal, Varsovie, RFI.
Reportage de notre correspondant en Pologne, à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio.
RFI à Barcelone, 105.3 FM.
Direction l'Espagne donc, où depuis deux mois déjà, une partie de la Catalogne, cette région autonome du Nord-Est, se trouve en état d'urgence sécheresse. Les réservoirs d'eau douce ne sont plus qu'à 17% de leur capacité et aucune pluie conséquente n'est en vue. Alors face à cette urgence, Stéphanie Schuller, le gouvernement régional catalan, a annoncé hier qu'il allait installer une usine de dessalement flottante dans le port de Barcelone.
Oui, tout à fait. Anne, après trois années consécutives d'une sécheresse exceptionnelle en Catalogne, il est clair que Barcelone et ses près de 6 millions d'habitants n'auront plus assez d'eau. Même si depuis février, la population, les agriculteurs, mais aussi l'industrie sont soumis à des restrictions draconiennes. Mais comment approvisionner en eau douce la deuxième ville d'Espagne et de ses alentours. Hier, les autorités catalanes ont donc tranché. Ce sera une usine de dessalement flottante, vous venez de le dire, positionnée dans le port de Barcelone. Elle transformera l'eau de mer en 40 000 mètres cubes d'eau potable par jour, ce qui correspond à 6% de la consommation journalière des Barcelonais. Seulement voilà, le dessalement de l'eau de mer est un processus extrêmement énergivore. Le prix pour un mètre cube s'élèvera à 4,40 euros. Cette option reste pourtant plus économique et au final plus écologique que la solution d'urgence jusqu'ici envisagée, à savoir faire venir l'eau par bateau d'une usine de dessalement à 300 km de là. Le nouvel équipement sera donc mis en service en octobre. Entre-temps, le gouvernement catalan achètera 12 unités de dessalement mobiles, notamment pour sauver la saison estivale de la très touristique Costa Brava.
Merci Stéphanie Schuller.
RFI Midi.
Un monde de tech. On va reparler de TikTok Lite, Dominique Dezonnet avec vous, bonjour.
Bonjour Anne.
Puisque l'application est dans le collimateur de l'Europe, ça fait une semaine qu'elle a été mise en ligne en France et en Espagne. Et déjà, elle est contrainte de rendre des comptes à la Commission européenne parce que Bruxelles estime que la version légère du TikTok original, donc qui rémunère ses usagers en fonction du temps passé à regarder des vidéos courtes, c'est vraiment la nouveauté, eh bien Bruxelles estime que ce système encourage le comportement addictif des jeunes utilisateurs.
Oui, Bruxelles estime depuis ce mercredi que le groupe chinois aurait dû effectuer une évaluation de ses risques avant de proposer sa nouvelle application à l'UE. Et contrairement aux autres pays dans lesquels TikTok Lite est déjà disponible, au Japon ou en Corée du Sud par exemple, la version européenne intègre une fonction récompense qui, concrètement, dans l'appli, se caractérise par un bouton à cliquer se substituant à celui dénommé création qui permettait de poster des vidéos. Les utilisateurs sont ainsi invités, le mot est faible, à accumuler des pièces virtuelles en visionnant des tonnes de clips et ensuite de convertir leurs gains contre des bons d'achat sur les plateformes d'e-commerce du groupe ou celles de ses partenaires.
Et dans son communiqué, Bruxelles exprime ses inquiétudes sur les effets potentiels de ce programme sur la santé mentale des utilisateurs.
Effectivement, l'entreprise chinoise est sommée ainsi de répondre aux inquiétudes de la Commission et de lui fournir dans les plus brefs délais tous les documents attestant que TikTok respecte bien les règles de l'Europe en menaçant TikTok de déclencher une nouvelle procédure formelle à son encontre pour infraction à la législation de l'UE sur les services numériques. L'entreprise risque, si les faits sont avérés, une très lourde amende, jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires. TikTok Lite est une machine infernale à addiction, s'insurge la députée européenne Stéphanie Yann-Courtin dans une vidéo sur la plateforme X, anciennement Twitter.
Il y a quelques jours, j'ai alerté la Commission européenne en demandant qu'elle se saisisse du sujet au plus vite et qu'elle demande des comptes à TikTok pour savoir comment TikTok entendait modérer ses contenus, protéger la sécurité de nos enfants et faire en sorte que cette application ne concerne pas du tout nos mineurs. Et là, Thierry Breton, le commissaire en charge, vient effectivement de se saisir du sujet en écrivant à TikTok, en lui donnant très peu de temps pour répondre et nous dire comment il entend se conformer à l'acte sur les services numériques, le fameux DSA.
Alors, ce n'est pas la première fois que la Commission européenne demande des comptes à TikTok.
Oui, Bruxelles a ouvert en février dernier une autre enquête afin de déterminer si le réseau chinois, avec sa plateforme en ligne, a enfreint la législation européenne sur la protection des mineurs, les règles de la publicité dans l'espace informationnel européen et a failli dans sa modération contre les contenus préjudiciables. Et enfin, s'étonne de savoir comment le réseau préféré des adolescents du monde entier compte enfin limiter les risques d'addiction de ces jeunes internautes en Europe.
Dominique Dezonnet, on vous retrouve la semaine prochaine pour un monde de tech. Et pour le moment, on va parler football. C'est décidément une bonne semaine pour les clubs français en Europe. L'Olympique de Marseille s'est qualifié hier soir pour les demi-finales de la Ligue Europa. Battu à l'aller 2-1 par le Benfica Lisbonne, l'OM s'est imposé au bout du suspense lors du match retour au tir au but, après un score de 1-0 en leur faveur à l'issue du temps réglementaire. Et cette qualification était méritée au vu de l'abnégation affichée au stade Vélodrome par les Marseillais, Eric Mamrut.
La qualification pour Marseille, envers et contre tout. Malgré un effectif décimé par les blessures, malgré la sortie à la pause de Chancel Bemba, malgré les nombreuses crampes en fin de match obligeant Jean-Louis Gasset à faire rentrer Domino, pas encore professionnel, malgré aussi une domination longtemps stérile, les Olympiens n'ont jamais lâché, décrochant au mental leur place en demi-finale. Le milieu marocain Amine Harit.
Il n'y a rien qui va, mais au final, il y a tout qui va. Non, franchement, ouais, il y a tout qui va de travers. Même nous, de temps en temps, on comprend pas. Voilà, c'est... Il y a des choses qui nous tombent dessus, on doit faire avec, mais c'est ce qui crée la force d'un groupe.
Un état d'esprit de guerrier insufflé juste avant le match par l'entraîneur Jean-Louis Gasset.
La causerie, c'était rentrer dans l'histoire. Et avec tout ce qui nous arrive, parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes, mais j'ai dit rentrer dans l'histoire. Et j'ai senti à leurs yeux que j'avais touché. C'était un mot magique.
Une magie qui ne semble opérer qu'en Ligue Europa cette saison à l'OM. De quoi donner envie au gardien Paulo Lopez de la faire vivre jusqu'au bout.
Vous savez qu'on est en demi-finale, on n'a rien gagné. Alors c'est bien, on était contents. Je pense que dans la saison qu'on était, c'est une chose extraordinaire. Mais je vais sourire quand on gagne l'Europa League.
Mais avant de rêver au sacre, l'OM devra terrasser l'Atalanta Bergame en demi-finale. Eric Mamrut, Marseille, RFI.
Et cette demi-finale aura lieu les 2 et 9 mai prochains, match aller à Marseille et retour en Italie. Merci d'écouter RFI. Dans quelques minutes, le grand journal de la mi-journée. Puis on parlera avec notre invité de ces frappes israéliennes en Iran contre une base militaire. Tout le monde appelle à la retenue et à la désescalade. On en parle dans un peu plus d'un quart d'heure. Et puis à midi et demi, temps universel, Afrique Midi. Bonjour Benoît Almeras.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, Salem Bazoum, parti du Togo.
Oui, le fils de l'ex-président nigérien déchu, Mohamed Bazoum, était retenu à Lomé depuis le début de l'année à la suite de sa libération. Il a donc pu quitter le territoire togolais, mais son père et sa mère restent, quant à eux, en résidence surveillée au Niger. À la une également, la forte augmentation du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest, conclusion d'un nouveau rapport des Nations Unies que nous avons pu lire. Et puis, la réforme de la justice au Gabon, RFI a pu se procurer les grandes lignes, Anne.
A tout à l'heure, Benoît Almeras, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et d'ici là, jusqu'au prochain journal de la musique, Jane et Cosmic Love.
Stardust bees, a galactic rose.
Cosmic Love de la française Jane. Merci d'être avec nous sur RFI. Vous ne bougez pas, on revient dans quelques secondes.
Témoin d'actu, le podcast d'info de RFI.
Les médias francophones et internationaux sont de plus en plus nombreux à créer des émissions totalement dédiées à l'environnement. Devant la déferlante d'études, d'avis, d'idées, comment s'y retrouver? Pour parler au mieux de cette urgence écologique, Alexandra Cagnard reçoit Simon Rosé, qui a désormais la charge du service environnement-climat de RFI.
Témoin d'actu, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.